Madame la députée, chers et chers collègues, chers et chers étudiants, mesdames et messieurs, je vous rassure, je ne dirai que quelques mots pour accueillir cette belle manifestation, mais quelques mots qui m'est cher de prononcer ce soir, parce que je constate avec admiration, et ça n'est pas si fréquent, que l'Amphi-B2, notre plus grand amphithéâtre, est à peu près rempli. Donc vous êtes à peu près un millier, pas tout à fait, à assister à cette manifestation pour venir donc débattre, et c'est formidable, sous l'angle de l'économie, sur des sujets cruciaux et brûlants, bien entendu, hein, qui sont ceux du retour des frontières, de la fin de la mondialisation, avec des thématiques qui ne le sont pas moins, évidemment, dès lors que l'on décline une thématique large de ce genre, hein, sur les migrations et la question de la fermeture des frontières, sur le commerce international et la question du protectionnisme, sur la globalisation financière. Bon, en tant que président de cette université, je voudrais tout d'abord souligner, bien entendu, l'importance de l'économie et des sciences économiques dans l'histoire de l'université et dans l'université telle qu'elle se construit aujourd'hui. Cela certainement justifie amplement que nous puissions accueillir cet événement des Nocturnes de l'économie, donc le troisième du nom si je ne m'abuse, qui est inspiré et nourri de l'initiative lyonnaise des Journées de l'économie. Et je suis très heureux qu'ils se tiennent donc à Nanterre cette année après avoir été accueillis à la Sorbonne et à Paris Dauphine. Je voudrais rappeler, cela fait partie des titres de gloire de l'université, que pendant plusieurs années, l'un des rares récipiendaires français du prix de la Banque de Suède en sciences économiques, ce que l'on désigne plus rapidement comme prix Nobel d'économie, Maurice Sallé, a animé ici, dans un partenariat avec l'École des Mines, un séminaire de troisième cycle qui précisément portait en partie sur les enjeux de ce soir, avec une thèse que l'on a qualifiée parfois de libérale et de protectionniste. Je laisse les spécialistes confirmer ou infirmer cette caractérisation. Je voudrais aussi rappeler, là encore, c'est l'occasion de s'en vanter quand même un peu, car c'est finalement trop peu connu, que furent étudiants chez nous un ancien directeur du FMI, étudiant et thésard en économie, puis enseignant en économie à Nanterre, qui fut également ministre de l'économie et des finances, je vous laisse le soin de deviner de qui je parle, l'actuelle directrice du FMI, actuellement également ancienne ministre de l'économie, qui fut étudiante en droit en troisième cycle, et enfin, un autre ancien ministre de l'économie, actuellement candidat à l'élection présidentielle, qui fut étudiant en philosophie en troisième cycle, je ne résiste pas à l'envie de vous dire, parce que c'est un sujet d'étonnement pour moi rétrospectivement, que la personne dont je parle a suivi mon séminaire de philosophie ancienne en 1999, donc ça me fait un drôle d'effet lorsque je mesure le parcours et voilà, le destin peut-être de la personne dont je parle. Est-ce un hasard si ces trois personnalités ont eu ce destin ? Je ne sais pas, mais j'ai plaisir à penser que peut-être le génie du lieu, ou ce qu'on appelle l'esprit de Nanterre, n'a pas été forcément étranger à ces trajectoires assez exceptionnelles. Plus sérieusement, Nanterre a une place historique, je le disais, dans la formation et dans la recherche en économie, au niveau national et international. Je pense notamment, comme beaucoup, à l'influence de Michel Aglietta et à l'école de la régulation qu'il a contribué à fonder. Et mon souhait le plus profond aujourd'hui est qu'elle continue bien entendu à avoir cette place en trouvant la manière de se différencier dans un contexte qui est de plus en plus concurrentiel, on le sait bien, entre les différents pôles d'excellence en économie qui sont constitués à travers le pays. Et j'espère en particulier que les économistes et le grand laboratoire Economics, sous l'égide duquel, au fond, en grande partie, cette manifestation se tient, porteront des projets d'envergure, hein, et par exemple, dans l'opportunité qui se présente aujourd'hui, participeront au montage appelés par le programme Investissement d'avenir, troisième du nom, montage des écoles universitaires de recherche qui sont en train de s'élaborer dans notre établissement. Je souhaitais enfin, évidemment, et j'aurais pu commencer par là, remercier les intervenants de très grande qualité qui ont accepté de participer à ce moment de débat public avec les étudiants. Et je voudrais saluer en particulier le directeur du département d'économie, Lionel Rago, et Laurence Sialom, qui ont été à la manœuvre pour l'organisation de cette magnifique soirée, lequel s'inscrit pour moi de façon très heureuse et pleine dans la thématique annuelle que nous avons souhaité mettre en avant dans le cadre de la communication institutionnelle de l'université, le thème de la société connaissante. Nous sommes placés sous l'égide de cette formule « vers une société connaissante ». Et la soirée qui s'annonce en sera manifestement un très beau moment. Et je voudrais aussi, bien entendu, associer à ces remerciements et avec mes félicitations et mes encouragements, les étudiants qui s'apprêtent à débattre devant vous. Et puisqu'il sera question, je n'ai guère de doute à ce sujet, d'un appel à la rigueur scientifique pour démonter les préjugés, pour s'attaquer aux dénommés faits alternatifs qui aujourd'hui, hélas, sont si prisés par certains groupes d'opinion et même par certains gouvernants de grands pays, je vous invite toutes et tous à participer sous la banderole de l'Université Paris-Nanterre à la grande marche internationale pour les sciences qui aura lieu le samedi 22 avril après-midi. Très bon débat à vous.
Bonjour à tous, je suis le directeur des Journées de l'économie et ça fait 3 ans que j'avais souhaité créer cette manifestation pour les étudiants. C'est bien la nocturne des étudiants en économie. Je remercie bien évidemment le président de l'université. Je trouve qu'on est accueillis remarquablement dans des locaux qui sont, je trouve, de très grande qualité. J'y suis d'autant plus sensible qu'ayant été étudiant ici à Paris 10, Nanterre, il y a bien longtemps, eh bien, je trouve que l'amélioration est absolument stupéfiante. Je trouve que vous avez beaucoup de chance d'être étudiant maintenant. Je remercie aussi Enrique Rodas qui a vraiment facilité toute l'organisation. Et il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui joue ce rôle-là. Il nous a été extrêmement utile. Alors vous savez que cette manifestation a un objectif. Vous êtes au centre du sujet ce soir, c'est de vous permettre un échange avec les étudiants sur des sujets qui nous concernent toutes et tous, je crois, et pour lesquels nos savoirs en économie peuvent peut-être apporter un éclairage, peut-être aussi se heurter à des limites. Ça sera un des points importants du débat et j'espère bien que vous allez les questionner, les pousser dans leur dernier retranchement. Ils sont nombreux face à vous, ces intervenants. Si on regarde les sujets qu'on a traités jusque-là, il y a 2 ans, on avait traité à la Sorbonne la croissance perdue en Europe, qui était le sujet avec Mario Monti, qui était le grand témoin. Et je pense qu'il avait été un lancement pour nous important de réflexion avec les étudiants, qui étaient très timides à l'époque. Ils trouvaient que c'était vraiment bizarre d'intervenir comme ça dans le grand amphi de la Sorbonne. Ensuite, l'an dernier à Dauphine, on était sur le sujet l'éducation dans la société de demain. Et cette année, donc, nous sommes sur le retour des frontières, la fin de la mondialisation. Il faut dire qu'évidemment, cette conférence, je dois aussi remercier Lionel Rago et l'équipe ici de Paris 10, qui a été absolument essentielle pour pouvoir mettre en place cette organisation. Et vous avez été d'une efficacité que j'ai trouvée aussi presque troublante par rapport aux années précédentes. Donc bravo, vous mériteriez un prix pour cela. Je tiens aussi à dire que je suis très heureux d'avoir des étudiants qui ont accepté de participer. Je trouve que c'est un peu courageux d'arriver à rentrer sur le panel et de se retrouver comme ça dans un amphi avec plus de 800 personnes qui sont là. Mais finalement, c'est vous qui êtes un peu les porte-parole ici de tous les étudiants. Donc, vous allez jouer un rôle essentiel. Bien évidemment, je suis extrêmement heureux que Sylvie Goulard, notre grand témoin ce soir, ait accepté. Députée européenne, mais quand on regarde, par exemple, je voyais son article dans Les Échos aujourd'hui, quand elle nous dit qu'il faudrait peut-être réfléchir à 2 fois avant de démolir l'Union européenne. C'est peut-être un des sujets aussi qui va être en toile de fond sur les différents aspects que nous allons regarder aujourd'hui. Merci à Jean-Marc Vittori, chroniqueur des Échos, mais surtout un espèce de fidèle depuis 10 ans qui a beaucoup aidé et qui contribue, je crois qu'il est vraiment convaincu de ce qu'on fait là avec les étudiants, d'essayer de favoriser cette communication et cet échange. Il faut aussi quand même que je remercie tous les partenaires rapidement. C'est une nocturne qui est en partenariat avec Paris Nanterre, bien sûr, l'Association française de sciences économiques, les Journées de l'économie, les Échos et la BRED. Vous avez vu, alors les banques n'ont pas toujours bonne presse. Ben, pourtant, je trouve que c'est très injuste parce que là, on a le directeur général de la BRED et aussi professeur d'économie et finances à HEC, Olivier Klein. Et d'abord, ça semble être une banque qui s'intéresse beaucoup aux étudiants. C'est déjà une qualité. Et la deuxième chose, c'est qu'Olivier Klein, ça fait 10 ans aussi, un peu avec Jean-Marc Vittori, un binôme impressionnant, de gens qui ont dit, on croit vraiment qu'on peut arriver à parler d'économie à un très large public, Et parmi ce public, bien évidemment, il y a les étudiants. Et il a été extrêmement fidèle. Je suis presque étonné parfois que les choses aient pu durer aussi longtemps. J'espère qu'elles vont continuer. On a besoin de gens qui sont décidés de cette manière-là pour pouvoir simplement réaliser un événement. Ça a l'air simple, mais pour pouvoir vous réunir comme ça, il faut déjà pas mal d'énergie. Et je tiens à dire que si vous avez un peu d'intérêt pour le sujet ce soir, on pourra se retrouver dans un an à Créteil. Et voilà, maintenant je passe la parole à Jean-Marc Vittori qui va modérer brillamment cette conférence.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi d'être ici, animer ce débat sur un sujet majeur devant les gouvernants de demain et d'après-demain. Ravi d'être là aussi parce que c'est une question d'actualité dont nous allons discuter. Évidemment, le journaliste que je suis y est très sensible. D'actualité à plusieurs titres. Déjà, si vous regardez ce qui se passe actuellement en France, où il va bientôt y avoir une élection présidentielle, deux candidats qui recueillent dans les sondages près de 40% des intentions de vote prônent une fermeture des frontières, frontières de marchandises, frontières au mouvement de capitaux. Et l'un des deux, ou l'une des deux, prône aussi une fermeture des frontières aux hommes et aux femmes de l'étranger. Donc, au cœur du débat français, au cœur du débat mondial aussi, vous savez que nous avons aux États-Unis un président qui veut construire un mur, symbole très fort, qui veut expulser des millions de personnes. Il avait parlé de 11 ou 12 millions pendant sa campagne. Maintenant, il semble qu'il ait un petit peu diminué ses chiffres et qui veut aussi fermer de manière tout à fait significative les frontières au mouvement de marchandises avec une taxe aux frontières et aussi peut-être des droits de douane. Pour l'instant, il ne les a pas encore précisés, mais c'est dans le tuyau. Et puis aussi, actualité plus proche de nous avec le Brexit. Donc là, pas de fermeture au mouvement de marchandises. Hein. Theresa May était à Davos au début de l'année pour dire que le Brexit, ça serait de l'ouverture au mouvement de marchandises, mais aux hommes et aux femmes, c'est plus compliqué. On le voit dans les universités britanniques aujourd'hui, où il y a un certain nombre d'enseignants qui se disent qu'ils vont peut-être pas pouvoir rester. Et puis aussi dans les hôpitaux, qui sont en train, comme vous le savez sans doute, d'importer massivement des infirmiers, des infirmières, des médecins d'Europe de l'Est, parce qu'ils savent que la porte va bientôt se fermer et que sans ça, ça va être très difficile de faire fonctionner les hôpitaux britanniques. Donc, question absolument essentielle au cœur de l'actualité, et puis où on est aussi à un mouvement d'inflexion majeur. C'est vrai sur le commerce mondial, qui augmentait, les échanges de marchandises augmentaient deux fois plus vite que la production avant la crise, et désormais c'est plutôt un peu moins vite. Donc, il y a une rupture absolument majeure par rapport à ce qu'on a appelé la mondialisation, qui dans l'esprit collectif portait surtout sur les marchandises. On voit les questions majeures qui sont posées sur les migrations, alors que les migrations sont beaucoup moins importantes que ce qu'elles étaient il y a un siècle. Changement aussi sur les mouvements de capitaux avec des prêts bancaires internationaux qui sont devenus beaucoup moins importants que ce qu'ils étaient. Et pourtant, il y a des flux qui continuent de se développer absolument massivement, hein, qu'on voit moins, mais qui sont les flux d'information. Un rapport de McKinsey disait l'an dernier que les flux d'information transnationaux ont été multipliés par 45 en 10 ans. Donc, moins de mondialisation, plus de mondialisation, nouvelles frontières, nouveaux murs. On va en parler en trois séquences autour des trois principales mondialisations, donc les migrations, les marchandises et la finance, avec des questions qui viendront du panel des étudiants ici présents. Dernier point avant de rentrer dans le vif du débat, j'appliquerai la doctrine Cohn-Bendit en opposition à la doctrine Mélenchon, puisque au soir d'une des primaires, il y a eu un accrochage entre ces deux hommes politiques. Daniel Cohn-Bendit avait tutoyé Jean-Luc Mélenchon, qui l'a vouvoyé. Moi, je tutoie les gens sur scène quand je les tutoie en bas de la scène, et c'est ce que je ferai aussi ce soir. Voilà, donc on va commencer tout de suite par les migrations. Donc l'un des thèmes au cœur de l'actualité. On va commencer d'abord. Je vais vous présenter les intervenants au fur et à mesure. On va commencer avec Lionel Ragot. Donc Lionel est bien connu ici puisqu'il est directeur du département d'économie de l'université. Il est aussi conseiller scientifique au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. J'espère que je l'ai bien dit parce qu'il y a le directeur qui est aussi présent. Il a écrit il y a 5 ans un petit livre qui était remarquable sur les migrations, qui était titré « On entend dire que les migrations coûtent cher à la France, qu'en disent les économistes ?» avec Xavier Chojnicki. Et donc on va évidemment être au cœur de ces réflexions encore ce soir. Alors, Lionel, comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, cette question des immigrés soit si présente dans les débats politiques en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une réalité derrière? Est-ce que c'est une perception? Si oui, pourquoi a-t-elle changé?
Merci. Donc, effectivement, la question telle que vous la posez va nous permettre de mieux comprendre pourquoi aujourd'hui, cette question des immigrations est aussi prégnante, pas seulement en France, parce que finalement, dans le débat du Brexit, c'était principalement la crainte d'un afflux massif d'immigrés, et que je pense que les Anglais ont préféré perdre l'accès au marché unique pour retrouver une souveraineté sur leurs frontières, et que dans la campagne des élections présidentielles aux États-Unis, la question migratoire était aussi au cœur du débat. Donc ce n'est pas typiquement français, cette question d'immigration dans le débat politique. Et une facilité serait de dire que c'est la crise des réfugiés, puisque effectivement, depuis 3 ans, ce qui est au cœur du débat sur les flux migratoires, ce qui est à l'actualité, c'est la crise des réfugiés consécutive à la guerre en Irak et en Syrie. Néanmoins, si on regarde bien les données, et en particulier les études d'opinion, vous avez parlé des perceptions, parce que c'est ça qui est au cœur, c'est-à-dire comment les populations perçoivent les immigrés dans leur pays, on se rend compte que ce qui a fait complètement basculer en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans un certain nombre de pays européens, la perception des opinions publiques, c'est plutôt la crise de 2008. Ce n'est pas tellement la crise des réfugiés. Clairement, c'est la crise économique qui a modifié la perception qu'ont eu les opinions publiques de l'impact des migrations. Alors que cette crise économique n'avait absolument rien à voir avec les flux migratoires, qu'il n'y a pas eu d'évolution très sensible des flux migratoires à la suite de cette crise économique. Et juste pour donner, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais juste pour vous en convaincre, je vais vous donner un ou deux chiffres, en particulier pour la France. Une enquête qui est menée par le Transatlantic Trend, donc qui fait des études d'opinion en Europe et aux États-Unis, en 2008, donc avant que vraiment la crise marque ses effets, à la question posée aux Français, pensez-vous que l'immigration est une opportunité ou un problème? En 2008, 50% des Français ont répondu que c'était plutôt une opportunité et 39% que ça pouvait être à l'origine d'un certain nombre de problèmes. Et en 2013, ces deux chiffres sont exactement inversés. C'est-à-dire que 50% pensent que l'immigration est un problème et 39% que c'est une opportunité. Il ne s'est rien passé sur les flux migratoires entre 2008 et 2013 en France. Il n'y a pas eu de problème particulier. C'est vraiment une perception qui a été changée consécutive à la crise économique. Donc c'est pour répondre à votre première question sur comment évoluer ces perceptions. Et on voit bien que ce qui est au cœur, et j'avais quelques chiffres, mais je ne vais pas les donner, c'est exactement les mêmes évolutions, encore plus marquées, qu'on a constatées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Hein. Donc, juste pour vous donner quand même un ordre d'idée, en 2011, donc 2 ou 3 ans après la crise, où là, les effets se font sentir principalement, aux États-Unis, la question était, les immigrés sont-ils un fardeau pour les services sociaux ? 63% des Américains ont considéré que oui, c'était un fardeau, et c'est exactement le même pourcentage au Royaume-Uni. D'autres enquêtes qui ont été menées beaucoup plus récemment ont montré qu'au contraire, ces chiffres ont diminué. Donc malgré la crise des réfugiés, la perception reste majoritairement négative, mais elle s'est quelque peu réduite.
Alors, derrière ces perceptions, qui sont évidemment tout à fait importantes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui justifie le fait que, dans plusieurs pays importants, on a cette perception extrêmement négative? D'où ça vient? Est-ce que ça vient de ce qui se passe ailleurs à l'étranger? Est-ce que ça vient de ce qui se passe dans le pays? Vous avez mentionné la crise.
Alors, c'est compliqué pour un économiste de dire qu'est-ce qui forme les perceptions, qu'est-ce qui explique les perceptions. Ce n'est pas trop le travail de l'économiste. Donc, on voit bien que les variables économiques sont un déclencheur d'une modification des perceptions. Par contre, ce qu'on peut dire, et c'est pour ça que j'insiste sur le terme perception, c'est que ça ne correspond pas à la réalité. Donc, il y a un décalage entre ce que perçoivent les opinions publiques majoritairement de l'impact de l'immigration. Alors, ce qui est souvent reproché à l'immigration, c'est d'avoir un impact négatif sur le marché du travail, c'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, il y a une crainte beaucoup plus importante qu'auparavant que les immigrés prennent le travail, on dira les natifs, et qu'ils soient aussi à l'origine d'une baisse des salaires ou que c'est eux qui empêchent les salaires d'augmenter. Et puis il y a aussi une deuxième perception négative, qui est aujourd'hui majoritaire, que j'ai évoquée d'ailleurs dans les sondages, c'est la crainte qu'ils pèsent sur les finances publiques, et en particulier sur les finances de la protection sociale. Alors, c'est très difficile de lutter contre des perceptions lorsqu'elles ne correspondent pas à la réalité. Surtout que, si vous me laissez juste 2 minutes, si je prends l'exemple des finances publiques et de la protection sociale, il y a un certain nombre d'a priori qui ne sont pas complètement faux. Que les immigrés, en France, je vais vous donner les chiffres pour la France, les immigrés en moyenne en France sont moins qualifiés que les natifs français. Et donc, étant moins qualifiés, ils payent moins d'impôts, ils percevront plus de prestations sociales, ils sont plus souvent au chômage. Alors, c'est vrai que le taux de chômage des immigrés est un peu plus élevé que celui des natifs, et donc, ils percevront plus d'allocations chômage. Et de la même manière, un ménage immigré a en moyenne un peu plus d'enfants qu'un ménage natif, et donc ils percevront un peu plus d'allocations chômage. Donc tout ça, c'est le discours qui est relayé, qui est vrai. Hein, donc, mais du coup, le résultat dans le raisonnement de l'opinion publique, ça va être... Donc du coup, il coûte cher aux finances publiques, parce que vous voyez bien, ils sont plus souvent au chômage, etc., tous les éléments que je viens d'évoquer. En réalité... Oui.
Justement, donc ça, c'est les perceptions, mais les économistes ont fait beaucoup de travaux depuis ces 2 dernières décennies sur ces questions, des travaux très poussés, très fouillés, qui évaluent précisément les contributions, les poids, et qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous pouvez nous résumer sur les finances publiques, sur l'emploi, ce que ça donne?
Alors, justement, sur les finances publiques, donc, les 3 points que j'ai évoqués, ce n'est pas des perceptions, c'est des réalités. Okay, mais les travaux qu'ont fait les économistes, c'est que, justement, un raisonnement de bon sens... Regardez, a priori, il coûte plus cher à la protection sociale, donc globalement, il coûte aux finances publiques françaises. C'est que justement, il faut se méfier du bon sens. Et quand on fait une analyse, et le président Balaudet l'a rappelé, j'espère qu'on parlera d'un point de vue scientifique, effectivement, quand les économistes mènent un travail d'analyse scientifique, ils vont mettre en évidence que ben, finalement, le résultat, c'est pas celui-là qu'on a globalement. Globalement, en France, l'immigration ne pèse pas sur les finances publiques, malgré ce que je vous ai indiqué, et qui est vrai, qui est dans les calculs qu'on fait, tout simplement parce que c'est lié au fait que la structure par âge de la population immigrée n'est pas la même que la structure par âge des natifs, et que la population immigrée est relativement concentrée dans les tranches d'âge entre 20 ans et 55 ans, c'est-à-dire aux âges où globalement on a une contribution positive sur les finances publiques, même si elle est plus faible que celle que les natifs, mais ils sont beaucoup moins nombreux enfants et beaucoup moins nombreux très âgés, c'est-à-dire aux âges où là, par contre, on a une contribution négative très importante sur les finances publiques. Donc individuellement, oui, un immigré a une contribution plus faible qu'un natif, mais globalement, au total, cet aspect négatif disparaît, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus concentrés, plus nombreux sur les tranches d'âge où la contribution est positive. Mais c'est difficile à expliquer, c'est difficile à faire passer dans les opinions publiques dès lors que c'est un peu complexe.
Même chose sur le lien donc immigré et salaire. Est-ce que ça pèse sur les bas salaires? Est-ce qu'il y a des effets d'éviction?
Exactement. Donc ça, c'est un autre thème qui est souvent mis en avant dans les discours hostiles aux immigrés. Il y a eu énormément de travaux depuis plus longtemps que les 20 ans que vous avez cités sur cette question, en particulier dans les pays qui sont construits sur l'immigration, aux États-Unis, au Canada, en Australie, et plus récemment, depuis une vingtaine d'années, en Europe. Et il y a un relatif consensus parmi tous les économistes qui travaillent sur cette thématique qui montre qu'il peut y avoir des effets à court terme qui sont assez logiques dès lors que le choc est important. Et ce que font les économistes, ils vont utiliser l'expérience naturelle. C'est-à-dire que, vous voyez bien, quand je veux mesurer l'impact qu'a une arrivée d'une population étrangère immigrée dans un pays ou sur un marché du travail, il faut que je fasse attention de contrôler qu'ils ne sont pas attirés parce qu'il y a de bonnes conditions. Et effectivement, on pourrait dire, bah oui, il y a de bonnes conditions, donc ça a peu d'effet, etc. Donc on va faire des expériences naturelles. Je vous en citerai juste une, parce qu'elle est vraiment marquante. C'est la grande vague migratoire qu'a connue Israël au début des années 90, quand l'Union soviétique a autorisé les Juifs de quitter l'Union soviétique. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 3 ans, c'est plus d'1 million de Russes qui ont migré vers Israël. Toujours pour donner un ordre de grandeur, ça serait, en termes de choc pour la population israélienne, c'est comme si la France, en 3-4 ans, accueillait 7 millions d'immigrés. Donc, vous voyez, c'est un choc énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant 2-3 ans, effectivement, le taux de chômage était plus élevé que ce qu'il était auparavant, mais c'était principalement cette population immigrée qui était à des niveaux de chômage très élevés. Et au bout de 2-3 ans après, on a retrouvé des niveaux de taux de chômage et des niveaux de salaire qui étaient équivalents à ce qu'on avait auparavant. C'est-à-dire que le marché du travail, mais c'est un thème qu'on retrouve aussi dans le débat actuel de la présidentielle, c'est pas un gâteau qu'il faut se partager. C'est-à-dire que quand vous avez une population aussi nombreuse qui vient, effectivement, il va y avoir une demande de travail plus importante, mais ils sont aussi consommateurs, et donc vous allez avoir aussi un besoin de travailleurs plus important. Donc au bout de 2-3 ans, tous ces effets se compensent, et vous retrouvez à peu près les mêmes taux de chômage et les mêmes niveaux de salaire que vous aviez précédemment. Donc il peut y avoir un petit effet à court terme, mais qui disparaît à moyen long terme.
Merci Lionel. On voit bien un esté de faire une analyse très fine pour comprendre vraiment ce qui se passe, et c'est tout à fait essentiel. Alors, avec Vincent Ossius, on va voir maintenant un autre regard. Hein. Vincent, vous êtes chef du département économie-finance de France Stratégie. France Stratégie, c'est l'ancien commissariat au plan, c'est un endroit où on est censé réfléchir à la stratégie de la France, tout simplement. Et donc pour ça, on fait beaucoup d'études, notamment économiques. Vous-même, vous êtes économiste, vous avez travaillé au cabinet ministériel, à la commission au Trésor et donc au Royaume-Uni, j'ai entendu tout à l'heure.
Également, oui.
Spécialiste d'économie européenne et internationale. Donc à France Stratégie, vous avez travaillé sur plusieurs compartiments de cette question des migrations, et notamment sur qu'est-ce qui se passerait si on recommençait à contrôler les frontières au mouvement, pour les mouvements migratoires en Europe, et notamment avec l'espace Schengen, hein, l'espace qui a été créé ou qui permet d'aller dans les pays voisins sans avoir à sortir son passeport. Qu'est-ce qui se passerait ? Donc, qu'est-ce que ça donne ? Quelles seraient les conséquences de ces mesures qui sont régulièrement prônées dans la campagne électorale en ce moment, par exemple ?
Oui, alors nous avons cherché à mesurer effectivement les conséquences économiques d'un retour à la situation qui prévalait avant la mise en œuvre des accords de Schengen, pour essayer de voir, de vérifier effectivement dans les différentes dimensions qu'il faut prendre en compte quand on regarde cette question, quelles sont les conséquences économiques, finalement, de quelque chose qui peut paraître assez limité. C'est pour ça qu'on a voulu le regarder, se dire on pourrait facilement penser que le simple rétablissement des contrôles des papiers d'identité au passage à la frontière, puisque c'est ça Schengen en fait, c'est ne plus avoir des douaniers ou des policiers à la frontière terrestre qui vérifient les papiers d'identité, naturellement, pas systématiquement, mais de manière perlée, un peu de manière aléatoire. Ce simple rétablissement des contrôles aux frontières, on pourrait se dire finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact, ça ne changera pas grand-chose, ça va juste un tout petit peu nous retarder quand on passe les frontières. Et donc, on a justement cherché à essayer de mesurer ce que ça pouvait impliquer. Donc, ce qu'on mesure, c'est notamment les effets sur ce qu'on appelle les excursionnistes. Il y a en gros en France chaque année 120 millions de touristes étrangers qui viennent, principalement européens, pour une journée au maximum, qui ne passent même pas la nuit. Donc déjà sur les 120 millions qui viennent en France visiter Strasbourg, visiter une autre ville, ou pour du business, il va y avoir un impact sur ces personnes-là si quelques jours dans l'année au moment où il y a des pics de passage aux frontières, eh ben les files d'attente s'allongent. Donc c'est un des premiers effets qu'on a cherché à mesurer. Il y a également aussi un effet, bien sûr, sur les travailleurs transfrontaliers. Il y a 350 000 travailleurs transfrontaliers en France qui traversent la frontière tous les jours. Et bien évidemment, si on retarde leur passage, non pas parce que le contrôle de leur papier d'identité prend particulièrement du temps, ça peut aller assez vite, mais simplement parce qu'il va y avoir des files d'attente qui vont s'allonger, parce que le traitement, certains jours ou à certaines heures de la journée, va dépasser la capacité en fait, des douaniers ou de la police de l'air et des frontières de traiter et de contrôler. Et le troisième impact qu'on peut anticiper assez facilement, c'est bien évidemment aussi sur les routiers, finalement sur les marchandises, puisque les camions qui passent la frontière doivent également être contrôlés, puisqu'il y a éventuellement des individus dans ces camions. Par ailleurs, ils sont éventuellement ralentis aussi par les files d'attente qui peuvent se constituer à la frontière. Donc tout ça, l'un dans l'autre, en impact immédiat, direct, sur ces trois types de conséquences, on les chiffre entre 1 milliard d'euros et 2 milliards d'euros de pertes nettes pour le pays en cas de rétablissement, de contrôle, non pas systématique, parce que ça c'est impossible, mais de la situation qui prévalait avant 1995, avant la mise en œuvre des accords de Schengen. Ça, c'est les impacts de court terme, je dirais, c'est ce qui va coûter aux entreprises de transport, aux transfrontaliers qui vont certains éventuellement renoncer à aller travailler de l'autre côté de la frontière, ou aux touristes, excursionnistes qui viennent pour des courts séjours et qui, devant la possibilité d'attendre une heure ou deux à la frontière belge ou allemande, renonceront à venir en France. Mais il y a également des impacts de long terme qu'on a cherché à mesurer, parce que l'intensité des passages, de la facilité avec laquelle on passe les frontières, impacte plusieurs dimensions, notamment notre propension à commercer avec des agents économiques, que ce soit des entreprises, des individus de l'autre côté de la frontière. Le fait que cette facilité de commercer peut être impactée par du temps de passage supplémentaire à la frontière, eh ben, là aussi a un impact sur le choix des entreprises de se dire est-ce que je vais chercher un fournisseur qui peut être éventuellement de l'autre côté de la frontière ou pas. Tous ces effets, en fait, l'un dans l'autre, on va les mesurer par ce qu'on appelle de l'analyse gravitationnelle, qui tient compte en fait de l'impact d'une frontière, toute chose égale par ailleurs, compte tenu d'autres facteurs structurels comme la langue, comme la distance, comme la densité de population, etc. Et cet impact-là, qui est donc un impact de beaucoup plus long terme, en creux, les accords de Schengen ont créé de l'ordre de 15 à 20% de commerce supplémentaire entre les pays membres de l'espace Schengen. Donc, en creux, revenir à la situation qui prévalait avant Schengen, c'est remettre en cause une proportion peut-être pas aussi importante. Donc, on a choisi de retenir une proportion de 10%. Et ça se traduit pour la France par la perte d'un demi-point de PIB, donc de l'ordre de 10 milliards d'euros annuels. Bien sûr, à terme, quand les effets d'un rétablissement des contrôles auront fait sentir, se seront matérialisés. Et pour l'ensemble de l'espace Schengen, c'est de l'ordre de 0,8 point de PIB, de l'ordre de 100 milliards d'euros. Voilà pour les chiffrages.
Merci. Exemple très, très concret hein, d'une mesure qui peut paraître anecdotique ou relevant du bon sens pour montrer par toute une série de canaux ces impacts à la fois court terme et long terme. Vincent, vous auriez pu nous parler aussi des travailleurs détachés, du tourisme social, mais je préfère aller tout de suite vers les questions des étudiants. Qui se lance ?
Alors bonsoir, je m'appelle Césarine Bonnet, je suis étudiante à l'Université de Nanterre en économie en troisième année et je me posais une question. On aborde souvent la question de l'espace Schengen, surtout dans le débat politique aujourd'hui. Et je voulais savoir enfin, puisqu'on dit souvent il faut le retirer, il faut le restructurer. Et je voulais savoir, est-ce que l'espace Schengen en l'état est viable pour l'Europe ?
Vincent, pas la question la plus facile, mais bonne pioche.
Oui, donc je crois que les mérites effectivement d'avoir essayé de quantifier les impacts économiques, c'est de se dire, voilà, si on les abandonnait, quels en serait le coût. Je dois dire qu'au coût économique, il faudrait au moins aussi ajouter le coût administratif de rétablir les contrôles. Mais il y a une dimension, la question que vous posez la soulève, c'est est-ce que ça serait efficace de revenir et de rétablir ces contrôles ? Sachant que ces contrôles, encore une fois, c'est la situation qui prévalait avant 1995. Et pour ceux qui ont vécu cette période, ça n'empêchait pas de passer assez facilement. Et bien évidemment, un contrôle systématique des frontières serait complètement autre chose, beaucoup plus coûteux, beaucoup plus, un impact beaucoup plus grand sur l'économie. Pensez, rien qu'entre la France et la Belgique, il y a 300 points de passage. S'il fallait qu'on mette des douaniers à tous les passages, contrôlant systématiquement toutes les voitures, tous les camions, etc., ce serait un coût énorme, par ailleurs d'une efficacité extrêmement limitée. Prenons l'exemple des États-Unis. Ils ont une barrière déjà entre les États-Unis et le Mexique. Ils trouvent que ce n'est pas assez efficace. Enfin, en tout cas, leur président actuel considère que ce n'est pas assez efficace. Ils veulent construire un mur maintenant, qui dit que le mur sera plus efficace que la barrière qui existe déjà, qui est déjà assez impressionnante. Donc, simplement parce que des contrôles comme ça aux frontières, on sait bien que ce n'est pas efficace. En réalité, Schengen ne veut pas dire qu'il n'y a plus de contrôles en Europe. Simplement, Schengen veut dire que les contrôles ne sont plus aux postes frontières. Les douaniers ou la police peut contrôler et contrôle des personnes sur l'ensemble du territoire, mais sur la base de moyens d'information modernes, électroniques, notamment lorsque les marchandises circulent. Il y a des flots d'informations et des déclarations qui sont faites aux douanes, qui leur permettent, par du big data en quelque sorte, d'identifier les cargaisons qui sont...
Non, mais là, vous parlez des marchandises. Les hommes et les femmes sur Schengen, il y a tout de même eu un problème. C'est-à-dire que, avec la mise en place de l'espace Schengen, il devait y avoir normalement à la fois des informations qui devaient circuler entre les autorités judiciaires des différents pays, entre les autorités policières des différents pays. Et quand vous discutez avec les juges et avec les policiers, ils disent qu'il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place, donc on s'est arrêté à mi-chemin. Et on devait aussi avoir un système de contrôle aux frontières de l'espace Schengen, qui aussi, on l'a bien vu avec l'histoire de la crise des réfugiés, posait question. Donc, bon.
Tout à fait. Non, je prenais l'exemple des marchandises pour dire que pour les marchandises, il existait des contrôles qu'on n'avait pas mis en place, en tout cas pas de manière complète, pour les personnes. Donc effectivement, pendant un temps, on n'a pas renforcé la frontière extérieure de l'espace Schengen. Ce sont des choses maintenant qui ont été décidées et qui sont mises en place. Donc à la fois le corps de garde frontière européen qui est constitué, dont on a augmenté les moyens, mais ça c'est une première chose. Il faut aider les pays qui sont aux avant-postes aussi à traiter notamment les flux de personnes. Et par ailleurs, l'échange électronique d'informations sur les passagers. Aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'est que les entrées et les sorties de l'espace Schengen, il y aura une information systématique qui va être mise en place, information qui n'existait pas. Donc, information systématique quand une personne non citoyen des pays de l'espace Schengen ressort, on aura l'information, alors qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. Et également, pour les citoyens de l'espace Schengen, avant, l'information de rentrée sur le territoire n'était pas centralisée, n'était pas transmise. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, un certain nombre de terroristes ont profité de ça. Et donc, il faut effectivement le mettre en place, qui a été décidé. Je crois qu'il faut aller plus loin aussi. On a décidé de l'échange d'informations sur les compagnies aériennes à l'intérieur de l'espace Schengen. Il faut peut-être se poser la question des autres modes de transport. Est-ce que les trains et autres... Alors, on n'aura pas l'échange d'informations sur tout, parce que, bien évidemment, en voiture individuelle, vous déclarez nulle part que vous allez d'un point A à un point B. Et probablement pas souhaitable d'avoir à le faire. Et peut-être, pour terminer là-dessus, on a... Effectivement, l'Europe, collectivement, tous les pays de l'Union européenne ont pendant longtemps ignoré la question de la stabilité et du développement. Enfin, en tout cas, on regardait la question du développement des pays dans leur voisinage uniquement sous l'angle des accords commerciaux ou de la politique d'élargissement. Il faut véritablement, et je crois que maintenant la prise de conscience est là, mais maintenant il faut le traduire effectivement en actes concrets. Il y a déjà des décisions qui ont été prises, mais avoir un véritable continuum dans les politiques de l'Union européenne qui partent à la fois de nos politiques humanitaires, puisque l'Europe est un des acteurs principaux, si ce n'est le principal dans le monde en matière de réponse aux crises humanitaires. D'aide au développement, première zone dans le monde à financer l'aide au développement, et bien entendu les questions de sécurité, voire de défense, de partenariat de défense avec certains pays de notre environnement, de notre voisinage. Alors ça passe aujourd'hui par l'OTAN, mais ça pourrait passer par des actes européens. Tout ceci doit être fait dans un continuum et pensé globalement de manière cohérente.
Autre question d'étudiants ? Oui.
Bonjour. Alors, je m'appelle Sabine B. et je suis étudiante à l'Université Paris-Dauphine en M2 économie. Et je voulais juste reprendre par rapport à la politique humanitaire de l'Union européenne. On voit bien aujourd'hui que les 27 pays de l'UE n'arrivent pas à parler d'une seule voix, par exemple, concernant la politique de l'asile, et qu'ils n'arrivent pas à dégager une stratégie efficace. Chacun fait un peu en fonction de la situation interne de son pays. Et comment faire justement pour dépassionner un peu ces questions d'immigration et de politique de l'asile et vraiment mettre en place une politique de solidarité efficace et pas des solutions de court terme comme l'accord par exemple avec la Turquie. Voilà.
Oui. Oui. Donc, alors Vincent, un mot et Lionel.
Ça complète effectivement très bien parce que j'ai parlé de la politique humanitaire, en matière humanitaire, en matière de développement. Et effectivement, il faut aller plus loin et avoir une politique en matière d'asile et migratoire, si ce n'est totalement commune, en tout cas beaucoup plus coordonnée. Mais effectivement, il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Et c'est à ces conditions-là, effectivement, qu'on pourra préserver l'espace Schengen. Et à ces conditions-là, il peut survivre, il peut perdurer et la mobilité peut être encouragée.
Oui, c'est une question très difficile que vous posez, parce que moi, je distinguerais les migrations normales, standards, et vous rajoutez la question de la crise des réfugiés actuelle. Il faut bien faire la séparation entre les deux. La crise des réfugiés, c'est une crise. Donc, c'est une situation anormale. Jean-Marc Vittori a dit, mais on voit bien les difficultés à garder les frontières de l'Europe. Et par rapport à une crise des réfugiés telle que celle qu'on a connue, c'est quasiment impossible d'empêcher les gens qui fuient leur pays parce que c'est leur vie et la vie de leurs enfants qui est en jeu. Ils trouveront toujours le moyen de rentrer. Même si on met un poste frontière aux 300 points de passage que vous avez évoqués, ils passeront par le bois à côté ou autre. Donc, à moins de construire un mur, même en construisant un mur, ils trouveront un moyen de passer. Donc, vous ne pouvez pas empêcher. Et on voit bien qu'au contraire, ce qui se passe, c'est que si vous n'essayez pas de canaliser, si vous n'essayez pas d'organiser au mieux, ce n'est pas facile. Hein, on voit bien que les Européens ont beaucoup de mal à se mettre d'accord là-dessus. Vous voyez les drames de plus en plus nombreux qui se passent, parce que comme c'est compliqué de passer par des chemins pas très difficiles, parce qu'ils sont fermés, ben ils utilisent des chemins beaucoup plus tortueux et dangereux, en particulier par la Méditerranée, et vous voyez bien qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on nous annonce que 150, 200, 300 personnes se sont noyées dans la Méditerranée. Et là, il n'y a pas de réponse commune de l'Europe, on le sait bien, ça va de Enrico Letta, avec qui j'ai eu le plaisir de faire un débat sur cette question, et c'était passionnant. Parce qu'il nous a montré que c'était ses convictions à lui qui étaient à l'origine de Mare Nostrum. C'est-à-dire que c'est l'Italie qui a financé à travers sa marine nationale la première pour aller aider justement ces migrants qui essayaient de passer à travers la Méditerranée. Donc il n'a pas envoyé la Marine nationale pour les empêcher de venir, mais c'était pour éviter ces drames-là. Mais c'était lié à ses convictions personnelles. Et vous voyez bien que, bon, face à la crise des réfugiés, l'Allemagne a ouvert ses portes, elle les a refermées, alors que d'autres des pays de l'Europe de l'Est ont voulu fermer drastiquement leurs portes. Il n'y a pas de politique européenne par rapport à la crise des réfugiés.
Alors, je voudrais me tourner vers notre grand témoin, là, évidemment, Sylvie Goulard. Sylvie est députée européenne depuis 2009, sous l'étiquette aujourd'hui ADLE, Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Elle est aussi, il faut le préciser, actuellement en marche. Sylvie est énarque. Elle a travaillé notamment aux affaires étrangères, beaucoup sur les questions européennes. Elle a aussi été à Bruxelles auprès de Romano Prodi quand il présidait la commission. Romano Prodi, avec qui elle a écrit un livre sur... Romano Prodi... Et elle a écrit un livre avec Mario Monti sur la démocratie en Europe. Pas de politique migratoire européenne. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Et est-ce que, par rapport à l'essor des migrations, est-ce que en Europe, est-ce que c'est quelque chose qui va se développer? Est-ce qu'on est à un point de rupture? Est-ce qu'on est à un point de continuité en ce moment?
Bon, d'abord, bonsoir à tous. Merci infiniment de me permettre d'être là ce soir. J'aime énormément dialoguer avec des jeunes. Donc d'abord, merci à vous tous qui avez préparé les questions, mais même les autres qui sont là. D'autant plus que vous avez choisi un magnifique sujet qui est au centre de l'actualité et qui est surtout, à mon avis, au centre des questions que doivent se poser les citoyens. Pas seulement dans cette perspective électorale, mais pour faire un certain nombre de choix. Et la mondialisation fait peur. Il y a des revendications tout à fait légitimes, il y a aussi des inexactitudes majeures, et je vous remercie infiniment d'avoir insisté aussi en excellent académique sur la différence entre les chiffres et la perception. En politique, on doit aussi s'attaquer aux perceptions, parce qu'elles sont parfois aussi importantes que les réalités. Mais je crois qu'il est très important pour des esprits comme vous, qui avez en plus la chance de faire des études dans une bonne université, de faire cet effort en tant que citoyen, de vous renseigner, de réfléchir et de ne pas attraper toutes les idées qui circulent. Avant de devenir à l'Union européenne, je voudrais dire que derrière les choix qui ont été évoqués, et peut-être vous allez trouver que je suis un peu vieux jeu, mes enfants qui ont votre âge à peu près diraient ça, mais ça fait rien, j'assume. En fait, il y a des choix qui sont des choix moraux. Et d'ailleurs, c'est ce que vous venez de dire sur Enrico Letta, qui est un troisième Premier ministre, ex-Premier ministre italien que je connais bien aussi, est très révélateur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Moi, j'aime beaucoup l'économie parce que ça permet d'avoir les pieds sur terre, ça permet d'affronter des questions de manière concrète, en sachant le coût, par exemple, de scolarisation des enfants immigrés, en connaissant le coût, l'impact sur le marché du travail, etc. Mais dans le fond, et notamment pour répondre à la première question sur Schengen, la première question, c'est de combien de liberté voulez-vous jouir ou pas ? Votre génération a grandi dans un espace européen de liberté et de libre franchissement des frontières. Moi, je suis juriste, je ne suis pas économiste, mais en droit, on dit en général que le principe est la liberté et les restrictions sont l'exception. Et les restrictions, on essaye de les justifier dans une démocratie. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, ça fait un peu vieux jeu, ça fait un peu la mémé qui vous fait la morale, mais c'est très important à la fois de maîtriser les concepts juridiques, de connaître les chiffres, de regarder les statistiques, et après d'être capable de faire un pas en arrière et de mesurer que dans le fond, vous serez des décideurs, vous serez à la tête d'entreprise, de gouvernement, d'État, je ne sais pas ce que vous ferez plus tard. Mais dites-vous bien que vous aurez des responsabilités qui sont des responsabilités morales, parce que les choix que vous ferez, par exemple, vont impacter la vie des gens, que ce soit des frontaliers, que ce soit des touristes, que ce soit des camionneurs, etc. Et donc l'arbitrage, par exemple, entre les questions de sécurité, une société a besoin de sécurité, elle a besoin de se protéger contre des terroristes ou des gens mal intentionnés, mais il faut bien calibrer la riposte, parce que si, pour des gens qui veulent détruire notre espace de liberté, nous tombons dans leur piège et nous réduisons toutes les libertés, c'est eux qui ont gagné. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire en préliminaire. Alors sur l'Europe, il n'y a pas de politique migratoire, et pour répondre à la question, tu sais, mon expérience européenne... Et c'est marrant parce que les gens parlent toujours de l'inverse. Ils disent toujours, il n'y a pas d'accord entre les 27, 28. Mais si vous avez travaillé dans un groupe de travail, ça a dû vous arriver. Où est-ce qu'on a vu des êtres humains être d'accord ? Essayez à 27 d'aller choisir une séance de cinéma, de décider où vous allez, à quelle heure, etc. Vous ne serez pas d'accord. Donc, la vraie question, ce n'est pas qu'il y ait des désaccords, c'est est-ce que nous nous sommes donné les moyens de surmonter des désaccords qui sont naturels ? Et il est évident que nous, dans ce domaine-là, contrairement à d'autres, nous ne nous sommes pas donné ces moyens. Et il y a une asymétrie dans la manière dont on a fait l'Europe, donc il faut la juger comme quelque chose d'inachevé, en ayant conscience du fait que si elle est inachevée, c'est en partie à cause de nos propres carences dans les différents pays qui la composent, se dire, on a aboli les frontières intérieures, et je crois fondamentalement que c'est un bienfait, ça vous a été démontré sur le plan économique, je ne reviens pas là-dessus, puisque certains emplois sont à la clé. Quand on dit on perdrait du PIB, il faut bien se dire, ça veut dire qu'il y a des familles dont les emplois dépendent de ça, et on perdrait aussi en termes de liberté, d'opportunité, de capacité. Par exemple, vous trouvez un stage, vous trouvez un échange Erasmus, vous décidez d'être chercheur dans un labo, visiting professor, etc. Vous voulez aller ailleurs, c'est plus facile. Donc, nous avons aboli les frontières entre nous et nous n'avons pas correctement traité la question des frontières extérieures. Je peux vous dire que quand je travaillais avec Romano Prodi, président de la Commission, en 2001, il avait fait un discours à Bruges, dans lequel il avait attiré l'attention sur la nécessité de se doter d'un corps de garde-frontières européen. Les frontières de la France sont entre la Libye et la Sicile, entre la Turquie et la Grèce, entre l'Irlande et l'Islande. Ce sont les frontières, en fait, bon, l'Irlande n'est pas dans Schengen, je dis une bêtise, mais en tout cas, si vous voulez, l'idée qu'il y a le territoire national, que vous allez remettre des guérites et des contrôles sur les limites de l'Hexagone, est une idée qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est triste à dire, il n'y a pas de politique européenne d'asile et d'immigration, et c'est une grave erreur, puisque nous avons par ailleurs créé cet espace. Maintenant, la question politique qui se pose à nous, c'est qu'est-ce que voulons-nous ? Voulons-nous revenir en arrière sur les libertés entre nous ? Et je trouve important de souligner par rapport à ce que vous avez dit, parce que votre étude est remarquable, il y en avait une de la Bertelsmann Stiftung aussi sur le coût de la sortie de Schengen, c'est que là, ce qui vous a été présenté, ça n'est pas ce que certains présentent, c'est-à-dire la fermeture, le sanctuaire. Ça serait extrêmement fluide, et à mon avis, pour les plus nationalistes, les plus souverainistes, ça ne leur suffirait pas. Donc l'impact sur l'économie serait plus grand. Mon sentiment, c'est que c'est vrai, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites en Europe ou pas suffisamment, mais quand dans la vie, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, ben on s'y remet, on essaie de le faire mieux. Il n'y a pas non plus de raison forcément de renoncer à tous les avantages, de tout détruire, pour se placer dans une situation qui... J'attire votre attention là-dessus, je l'ai écrit dans l'article des Échos ce matin, ne nous garantirait pas forcément la sécurité. Moi, j'ai été très troublée par l'attentat de Nice, où vous aviez un individu qui vivait à Nice et qui a loué un camion. Donc, toute cette présentation du danger qui vient d'ailleurs est une facilité. Le danger, c'est quand une société comme la nôtre, malheureusement, pour des raisons complexes, a dans son sein des individus qui veulent porter la mort à des gens qui ne leur ont rien fait. Et finalement, on voit bien qu'avec un couteau dans une église, avec un camion sur la promenade des Anglais, technique qui a été réutilisée d'ailleurs à Berlin ou à Londres, c'est relativement facile de tuer des gens. Et donc la vraie question, c'est d'attaquer le mal à la racine. C'est de l'attaquer dans les projets funestes de certaines idéologies ou de certains détournements de religion. C'est de voir pourquoi certains jeunes sont sensibles, pourquoi ils sont peut-être désœuvrés, etc., etc., sans simplifier. Mais donc, ne simplifions pas, et je trouve que ce premier échange a été vraiment extraordinaire de ce point de vue-là.
Mais je reviens à ma question. Comment est-ce que tu sens l'avenir des migrations ? Est-ce que tu penses qu'on est à un point où c'est en train de se bloquer avec ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qui se passe au Royaume-Uni, avec ce qu'on entend dire dans un certain nombre de pays d'Europe, ou que les tendances des migrations antérieures vont se poursuivre?
Bon, moi, je suis députée européenne, je ne suis pas voyante extra-lucide. Donc, il y a effectivement des forces qui vont dans le sens de la fermeture, de la construction de murs, etc. C'est vrai, il ne faut pas le nier, ça serait idiot. J'observe quand même une chose, c'est que la société américaine, les juges, la société civile sont en train de résister. Et peut-être que certains principes de réalité feront aussi reculer les dirigeants, notamment M. Trump, je ne sais pas. En tout cas, en ce qui me concerne, et je ne fais aucune propagande politique ce soir, mais moi je me bats, je suis là ce soir, je fais des dizaines de meetings en ce moment, parce que je pense que c'est la question qui est posée aux Européens. Que voulez votre génération a intérêt à écouter là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez être dans le monde de demain? Est-ce que vous voulez être vu à l'extérieur, en Chine, en Asie, en Afrique, comme les gens qui auront construit en Europe une espèce de château fort? On a eu ça à certaines époques. On avait des châteaux forts avec des murailles, avec une herse, avec un pont-levis parce qu'il y avait des douves pour éviter que les barbares montent à l'assaut du château. Ou est-ce que nous voulons être les défenseurs d'une autre conception de la société? Ça n'est pas facile. D'abord, ceux qui proposent le château fort, à mon avis, n'y arriveront pas pour les raisons qui ont été indiquées. Si vous souhaitez garder une certaine ouverture, il ne faut pas être naïf, il faut aussi préserver suffisamment, le lien social dans nos pays, l'acceptation des populations. Il faut travailler en profondeur et beaucoup plus qu'on ne l'a fait sur les mentalités, sur les apports positifs de l'immigration, sur la capacité à coexister aussi en rappelant des règles extrêmement précises, parce que vous n'avez pas mentionné un élément. Je crois que la crise a joué énormément, évidemment, dans ce sentiment. Je crois aussi qu'il y a un aspect qui est identitaire. Vous savez, en Allemagne, qui est un pays que je connais bien, les régions dans lesquelles on est le plus hostile à l'immigration, le plus favorable à Alternative für Deutschland, sont les régions dans lesquelles il n'y a pas d'étrangers. Donc, on a des phénomènes aussi de rejet fantasmagorique. C'est-à-dire qu'on rejette ce qu'on n'a même pas eu l'occasion de croiser sur son chemin. Donc, encore une fois, c'est l'une des questions les plus fondamentales qui nous est posée. Pour ma part, je souhaite que l'Union européenne reste ouverte, pas forcément ouverte à tout vent et de manière irresponsable, parce qu'encore une fois, si vous voulez accueillir des gens correctement, il faut aussi pouvoir les loger, il faut leur donner du travail, il faut soigner, éduquer leurs enfants, et tout ça a un coût, et il n'est pas illégitime de faire rentrer cet argument-là. D'autre part, encore une fois, le respect des règles de la République, comme on dit en France, le respect de la Grundgesetz, comme on dit en Allemagne, le fait que des puissances étrangères ne viennent pas chauffer les populations et importer la division chez nous, ce sont des choses importantes. Peut-être qu'on a été un peu trop naïfs là-dessus. Mais en tout cas, je n'ai pas la solution, je vous le dis franchement, mais la solution, elle viendra de la réaction de l'ensemble de la société. Elle viendra des choix politiques que vous faites, elle viendra aussi de vos comportements dans la manière dont vous accueillez les étudiants étrangers, dans la manière dont vous vous engagez dans des associations. Parce que c'est toujours trop facile de penser que c'est les autres qui doivent accueillir. L'accueil en ce moment en Allemagne, notamment, est fait beaucoup par la société civile, par des associations d'étudiants, par des binômes qu'on crée avec des jeunes, par des médecins à la retraite, par des églises, etc. Et donc, je ne me dérobe pas en tant que politique, je pense que l'Europe a sa part de responsabilité, mais elle ne pourra être une Europe ouverte que si l'ensemble de ses citoyens travaillent à la rendre habitable et un lieu de coexistence.
Dernière question des étudiants sur ce premier volet de nos échanges.
Bonjour. Moi, j'ai une question d'ordre un peu plus académique. On a appris lors de notre cursus en économie que... il y avait des modèles qui étaient basés sur tout ce qui est captation de la technologie, notamment pour les pays du Sud, et donc pays pauvres et pays en voie de développement, et notamment la qualification des travailleurs. Donc, moi, je me suis plutôt sur justement les étudiants internationaux qui viennent étudier ici, acquérir des compétences et puis rentrer ensuite dans leur pays. Est-ce que vous pensez justement que cette réduction de l'immigration, puis sûrement... la lourdeur administrative pourrait avoir des conséquences sur le développement de ces pays.
Lionel.
Un mot, vous avez raison. D'ailleurs, on n'a malheureusement pas le temps, même si on est déjà en train de dépasser le temps consacré à cette première partie, mais on n'a pas le temps de détailler les flux migratoires. On a beaucoup insisté sur les réfugiés, sur l'impact sur le travail. Mais une des principales composantes des flux migratoires internationaux, c'est justement les étudiants en mobilité internationale. C'est ce qui a d'ailleurs le plus augmenté dans les flux migratoires hors réfugiés. Donc c'est quelque chose de très important qui est de plus en plus qui était vraiment au cœur d'une réforme des politiques migratoires qui consistait principalement
à faire venir justement une population qualifiée. C'est ce qu'on avait appelé l'immigration sélective. Alors, mais sélective, non pas sur des bases d'origine géographique, religieuse ou autre, mais uniquement sur la sélection par rapport au niveau de qualification. Et on a vu que dans un certain nombre de pays, je pense particulièrement à l'Allemagne et d'autres pays, on s'est rendu compte que ben, finalement, un des meilleurs moyens, c'est de les faire venir au moment où ils se forment, pour diverses raisons. Donc l'Allemagne, le Royaume-Uni, c'était plus ancien, mais on mis une politique très active pour faire ça. Et avec la volonté d'en garder un certain nombre, mais aussi de contribuer au niveau de qualification des pays d'origine. Hein, puisque souvent, quand ces étudiants cherchent à migrer des pays moins développés, c'est parce qu'ils ne trouvent pas sur place les moyens éducatifs qui correspondent à leurs attentes. Donc une part non négligeable revient dans le pays, mais une part reste aussi dans les pays d'accueil. Donc c'est pour ça, parler d'académique, il n'y a pas que du brain drain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la fuite des cerveaux, il y a aussi, ça participe à la formation d'une, je ne parlerai pas d'une élite, mais de personnes beaucoup mieux qualifiées qui vont rentrer dans leur pays pour contribuer au développement de leur pays. Donc c'est un point très important, effectivement, que ces mobilités étudiantes, ces étudiants mobilité internationale.
Avec un risque majeur hein, d'être perdant-perdant, hein, la presse britannique a souligné que l'éducation supérieure était l'un des principaux produits d'exportation de l'économie nationale et que donc la fermeture assez massive du pays aux étudiants étrangers risquait de pénaliser le pays d'enseignement, mais aussi le pays d'où venaient ces étudiants. Et donc ça fait une transition sur d'autres produits d'exportation. Donc on va parler maintenant des marchandises.